Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, l'Ukraine mobilise des réservistes, l'OTAN et la Grande-Bretagne redoutent une offensive russe massive dans le pays. Vladimir Poutine ne dévoile pas ses cartes. Nous ferons le point de la crise ukrainienne. Qu'en dit l'opinion russe, nous verrons cela aussi. Et dans le vif de l'histoire, juste avant 14h, l'aspect religieux de cette crise. Avant cela, un nouvel avertissement de l'ONU. Le monde n'est pas prêt à affronter les grands incendies qui vont se multiplier à cause du dérèglement climatique. La campagne présidentielle, le premier meeting d'Emmanuel Macron aura lieu à Marseille le 5 mars. Une partie des candidats toujours en quête de parrainage à 9 jours de la date limite. Le porte-parole d'Éric Zemmour, Guillaume Pelletier, est notre invité à 13h30. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans l'actualité encore, le vaccin anti-Covid de Sanofi est prêt, un peu tard sans doute. Une arme à feu découverte dans l'enceinte d'une école à Lille-Saint-Denis. La bonne année 2021 de Stellantis, le constructeur automobile. Et ce titre qui vous concerne de près, vous auditeurs, Adèle Vendrette, nommée directrice de France Inter. Elle prendra son poste à la fin de l'été. Culture et plaisir, la chronique cinéma du mercredi avec Alexis Demeyer. Et dans C'est une chanson, voulez-vous danser avec Shakira? Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Alors que la campagne, depuis le début de la semaine, vit au rythme des communiqués et déclarations venues d'Ukraine et de Russie, un nouveau rapport rappelle l'ampleur des défis posés par le dérèglement climatique. Il en est moins question dans la campagne. Parmi ses conséquences, les événements climatiques extrêmes et les méga-incendies en Californie, en Grèce l'été dernier, après l'Australie les années précédentes. Bonjour Victor Moria.
Bonjour Bruno.
L'ONU prévient aujourd'hui dans un rapport, le monde n'est pas prêt à faire face à ces grands incendies qui vont augmenter de 30 à 50% d'ici à la fin du siècle.
Oui, le monde n'est pas prêt car selon un rapport publié ce matin, les gouvernements réagissent aux sinistres au lieu de les anticiper. Les ressources atterrissent dans le gouffre financier des réparations et non dans la prévention. Alors parmi les pistes de réflexion avancées par les Nations Unies, des investissements dans la restauration des écosystèmes, notamment ceux des zones humides, ou encore la modification de l'aménagement du territoire. Mais pour tout cela, il y a urgence, expliquent les experts, car l'augmentation de ces méga-feux, comme on les appelle, est en fait déjà là. Australie, Californie, Méditerranée, ces incendies extrêmes ne sont pourtant supposés se produire qu'une fois tous les 100 ans. Mais le plus terrible, disent-ils, c'est qu'aucune région du monde n'y échappera. On l'a déjà observé en Arctique il y a 2 ans. Enfin, et puisque les premières victimes de ces feux sont les poumons verts de la planète, des forêts du Congo à l'Amazonie, les Nations Unies rappellent que les méga-feux et réchauffement climatique sont liés. Sécheresse et hausse des températures favorisent les incendies. Et des forêts qui brûlent, c'est plus de CO2 relâché dans l'atmosphère.
En Ukraine, la préparation de la guerre entre un peu plus dans une phase concrète. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour.
Envoyé spécial à Kiev, vous êtes en direct pour France Inter. Éric, un plan de mobilisation des réservistes a été présenté ce matin.
Oui, la présidence l'avait annoncé hier, le ministère de la Défense l'a confirmé ce matin, la conscription des réservistes âgés de 18 à 60 ans, et ce sur une période d'un an. Alors c'est pas encore une mobilisation générale, mais on s'en approche. En ville, à Kiev, on n'a toujours pas l'impression d'être à la veille ou à l'avant-veille d'un conflit, sauf qu'à chaque heure pleine, l'hymne national retentit désormais dans les rues, et ce pendant une bonne minute. Préparation de guerre sur un plan économique également. Le président Volodymyr Zelensky lançait hier un programme d'économie patriotique, essentiellement un programme d'économie de guerre, baissant les taxes et les impôts, demandant aux Ukrainiens d'investir à tous les échelons, en particulier dans le secteur de l'énergie. L'Ukraine est encore en effet en bonne partie dépendante des flux et infrastructures russes en matière d'hydrocarbures. Pour donner du corps à son programme économique, le président rencontrera ce mercredi les 50 hommes les plus riches du pays, essentiellement pour les enjoindre à mettre la main au portefeuille. Hier, la première fortune d'Ukraine, Rinat Akhmetov, le maître du charbon et de l'acier du Donbass, donnait l'exemple. Il annonçait que sa holding avancerait à l'État l'équivalent de 30 millions d'euros au titre de son imposition à venir. Il promettait surtout la poursuite des investissements prévus en 2022 dans ses aciéries, à hauteur de 1 milliard de dollars quand même, notamment à Mariupol sur la mer d'Azov, l'une des toutes dernières grandes villes du Donbass, toujours sous contrôle ukrainien.
Éric Biegala en direct de Kiev pour France Inter, en direct également Moscou. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
Quelle sera l'ampleur de l'offensive russe en Ukraine? C'est toujours la question. Alors le secrétaire général de l'OTAN s'attend à une attaque massive. La chef de la diplomatie britannique estime probable que Poutine ait Kiev comme objectif. Mais Poutine, eh bien, il entretient l'ambiguïté. Alors essayons avec vous, Sylvain, d'explorer les pistes. Une possibilité, quoi qu'en disent les officiels que je viens de citer, c'est que l'offensive n'aille pas tellement plus loin et se limite au fond à cadenasser les zones séparatistes en place de fait depuis 8 ans.
Oui, effectivement, et tout dépend de ce qu'on appelle avoir Kiev comme objectif, hein, quand ils le disent. Si c'est conquérir et occuper la capitale ukrainienne, ça paraît hautement improbable à beaucoup d'experts militaires. En revanche, si c'est mener des frappes ciblées sur Kiev, détruire des infrastructures, terroriser la population et in fine déstabiliser le gouvernement Zelensky, ça c'est une option qui a été posée sur la table, y compris par un centre d'analyse stratégique ukrainien il y a quelques semaines déjà. Et ça peut effectivement, comme vous l'avez dit, s'accompagner évidemment d'une offensive à l'est pour desserrer l'étau de l'armée ukrainienne autour des territoires séparatistes. D'ailleurs, les Russes ne s'en cachent pas. Ils veulent que les bombardements cessent. Ils n'ont juste pas dit encore comment ils vont s'y prendre.
Option également à envisager, conquérir davantage de territoires côté russe.
Oui, et ça, c'est dans toutes les têtes. À partir du moment où l'armée russe lancerait une offensive à l'est, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'arrêter et d'aller un peu plus loin? En tout cas, pas le droit au sens des Russes, hein, puisque Vladimir Poutine a bien dit hier qu'il reconnaissait les deux républiques du Donbass, non pas dans leurs frontières actuelles, mais dans les frontières qu'elles revendiquent. Et ce qu'elles revendiquent comme territoire, c'est l'ensemble des anciennes régions ukrainiennes auxquelles elles appartenaient, un territoire trois fois grand comme celui qu'elles occupent actuellement. Et là, ça veut dire percer sur des centaines de kilomètres, reprendre Mariupol. Et on sait, par exemple, que les Russes ont rapatrié depuis la Baltique des moyens de débarquement.
Alors l'agence France Presse, ces dernières heures, Sylvain, cite des propos de Vladimir Poutine diffusé ce matin. Poutine ouvert à un dialogue direct et honnête avec les Occidentaux pour trouver des solutions diplomatiques. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela?
Avec Vladimir Poutine, c'est souvent la deuxième phrase qui compte. Bon. Et à peine après avoir dit ça, il a dit « Mais je veux réaffirmer que les intérêts de la Russie sont inconditionnels, donc nous continuerons à renforcer notre armée ». Voilà. Cette déclaration, hein, ce matin, c'était en fait un message enregistré à l'occasion du jour des défenseurs de la patrie. C'est un jour férié en Russie aujourd'hui. Et Vladimir Poutine n'a pas dit un mot de l'Ukraine dans ce discours.
Le jour du défenseur de la patrie, c'est quoi plus précisément?
Oui, c'est un jour férié. Sous l'Union soviétique, on appelait ça la fête de l'armée. Et par extension, c'est devenu la fête des hommes, en fait. Avant le 8 mars, ce sont les femmes qui sont censées faire des cadeaux aux hommes en Russie aujourd'hui.
Bon, c'est noté. Restez avec nous, si vous le voulez bien, Sylvain Tronchet. Nous allons parler des sanctions imposées à la Russie à présent. Car quoi qu'il en soit, depuis lundi, Vladimir Poutine a officiellement reconnu les deux républiques pro-russes autoproclamées en Ukraine et tient prête des troupes russes à envoyer dans ces deux régions. Et à ces actes officiels, les Occidentaux ont répondu par une série de sanctions. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Prenons le temps de comprendre avec vous ces sanctions, en précisant qu'Européens comme Américains se réservent le droit d'en prendre d'autres si l'offensive russe prend encore davantage d'ampleur. Voyons d'abord ce qui a d'ores et déjà été décidé.
Alors, sanctions contre les 351 députés russes ayant voté dans le sens de Vladimir Poutine, cette reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes, interdiction donc de déplacement dans l'Union Européenne et gel de leurs avoirs détenus dans des banques européennes. Les banques russes impliquées dans le financement d'activités liées aux séparatistes du Donbass seront elles aussi visées par l'Union européenne. Du côté américain et britannique, la première ligne de sanctions vise une toute première liste de quelques oligarques proches de Vladimir Poutine avec le gel de leurs avoirs. Les États-Unis interdisent également tout financement de la dette russe et bloquent deux premières banques russes dont les avoirs seront gelés elles aussi sur le sol américain.
Voyons maintenant les sanctions qui pourraient être prises si l'offensive prenait de l'ampleur.
Alors, une nouvelle liste élargie d'oligarques et de banques russes est d'ores et déjà agitée par les États-Unis. Le gel d'avoirs bancaires sur le sol européen est également en discussion par la diplomatie européenne. D'autres pays comme l'Australie ou le Japon ou encore le Canada annoncent mettre en place des séries de sanctions allant de visas pour certaines personnalités à quelques échanges commerciaux.
Y a-t-il des mesures de rétorsion d'ores et déjà abandonnées?
Alors, la menace de couper ce système SWIFT, couper la Russie de ce système de réseau financier qui permet aux banques d'échanger des informations de transactions n'est pas sur la table. La Russie dispose de son propre système interbancaire. Toute sanction commerciale ou sur l'énergie, évidemment, envers la Russie est également écartée à ce stade car elle enclencherait une avalanche de contre-mesures venues de la Russie.
Et on rappelle que l'Allemagne a annulé au moins temporairement l'autorisation au gazoduc Nord Stream 2. Sylvain Tronchet, vous êtes toujours avec nous en direct de Moscou. Ces sanctions, comment sont-elles accueillies en Russie?
Il n'y a quasiment pas eu de réaction. Hein. Ça devrait suffire à répondre à votre question. Une seule réaction officielle pour l'instant, c'est celle de l'ambassadeur russe aux États-Unis qui affirme que la Russie ne changera rien à sa politique étrangère. Bon, il faut bien voir que les sanctions annoncées par Washington ne sont pas particulièrement handicapantes. Les deux banques ciblées sont des établissements de second plan. Et puis la perspective de couper la Russie des financements occidentaux sur sa dette ne pose pas de problème insurmontable. Le budget de l'État russe est excédentaire. Hein. La vraie inquiétude ici, pour l'instant, c'est le cours du rouble qui est en train de se rapprocher de son plus bas historique actuellement, et cela pourrait peser sur les prix dans un contexte d'inflation déjà forte en Russie, et le mécontentement social qui en découlerait, là pour le coup, est suivi de très près par le gouvernement russe qui parlait déjà hier d'un éventuel contrôle des prix sur les produits alimentaires.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Inter en direct de Moscou, merci beaucoup. Poursuivons cet examen au fond de comment cette situation est vécue en Russie avec quelqu'un qui connaît bien la Russie. Bonjour Jean de Glignasty.
Bonjour.
Ancien ambassadeur de France à Moscou, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique, et auteur de ce livre « Petite histoire des relations franco-russes » aux éditions de l'Inventaire. On a envie d'examiner cette question avec vous, monsieur de Glignasty. Comment l'opinion russe, au fond, reçoit-elle tout ce qui se passe depuis lundi? Alors, que peut-on dire? Est-ce qu'il y a soutien, au fond, à une intervention en Ukraine? Vous allez me dire, peut-être, ça dépend de quelle intervention.
Alors, en fait, l'opinion russe, elle est visiblement partagée, mais de façon parfaitement logique. Les Russes considèrent les Ukrainiens comme, disons, un peuple frère. Hein. Comme vous le savez, à peu près 30% des Russes ont un Ukrainien dans leur famille, un père, un grand-père, un oncle, enfin bon. Tous les secrétaires généraux, sauf Andropov, du Parti communiste pendant la période soviétique, était à moitié ukrainien, avait une mère ukrainienne. Donc l'Ukraine est un peuple considéré comme très proche. Donc un éloignement de l'Ukraine, effectivement, est mal vu par l'ensemble du peuple russe, enfin la majorité. Et donc sur ce plan, le président russe est plutôt approuvé.
Petite rupture de liaison avec Jean de Glignasty. Je ne sais pas si la liaison a été rétablie. On va essayer de la rétablir. En attendant, reportage auprès d'Ukrainiens de Paris. Reportage de notre consoeur Agathe Mahué. Comment réagit la communauté ukrainienne en France à la situation dans le pays? Il faut préciser qu'il y a environ 40 000 Ukrainiens en France. Dans quel état d'esprit sont-ils après ces derniers rebondissements et les déclarations du président russe? Reportage Agathe Mahué à Paris.
Elle commente devant un borscht et une assiette de choux farci les événements de son pays.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé maintenant?
Fait mal, comme un choc.
Svetlana, qui vit en France depuis 3 ans.
Comme dessert, serniki, galette avec beaucoup de fromage. Et je pense beaucoup à ma famille, mes amis.
Ce petit restaurant dans Paris, c'est Alina qui l'a ouvert à 30 ans, dont 20 passés en France et un objectif.
Montrer qu'il y a bien une cuisine ukrainienne, une culture ukrainienne qui est autre que russe. C'est pas un seul peuple, ni un grand frère ou une petite sœur. Poutine, il essaye d'effacer l'histoire ukrainienne. S'il prend le côté l'Est, il va vouloir reprendre le milieu, puis l'Ouest, puis partir vers la Pologne. Il ne va pas s'arrêter à Donbass.
De l'autre côté de la Seine, dans la cathédrale catholique Saint-Volodymyr le Grand, Alexandre, le séminariste, prépare la messe. Au mur, les visages de ceux tombés à Maïdan il y a 8 ans.
Tous les gens qui ont fait le don de leur vie pour leur pays, qu'ils voulaient voir indépendante. Leur sacrifice ne nous permet pas de nous décourager.
Alexandre dit prier et chanter pour la paix en Ukraine et pour éviter une nouvelle guerre mondiale.
Voilà pour ce reportage d'Agathe Mahué à Paris. Jean de Glignasty, ancien ambassadeur de France à Moscou, on vous a retrouvé. Soutien, disiez-vous, à une intervention, en tout cas limitée en Ukraine, au nom d'une proximité entre les deux peuples. Est-ce que le discours très agressif et révisionniste de Vladimir Poutine est de nature à flatter l'opinion?
Je suis pas sûr. Comme je le disais, les Russes se sentent très proches des Ukrainiens, mais ils ne souhaitent pas la guerre, ils ne souhaitent pas des actions violentes. En revanche, le fait de...
Ah, voilà, liaison très difficile avec Jean Glignasti. On va devoir renoncer à contre-cœur. Jean Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou, auteur de ce livre,
ça, Petite Histoire. Ils étaient déjà proches des Russes et donc ça pour eux, c'est normal. Quoi. C'est pas un geste de l'importance que l'on a ici, enfin que l'on trouve ici.
Une dernière question, monsieur l'ambassadeur, en sachant que la liaison est très mauvaise malheureusement, est-ce que les Russes redoutent des conséquences économiques? Est-ce que cela, en termes d'opinion, Vladimir Poutine pourrait le payer?
Écoutez, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement russe, depuis plus de nombreuses années en tout cas, se prépare à l'avalanche des sanctions. Votre commentateur a dit à juste titre qu'ils avaient un système alternatif au système SWIFT. Ils ont introduit la carte MIR, qui est une carte qui remplace Visa Card, Mastercard, et donc 90% des Russes...
Bon, on va devoir renoncer. Jean Glignasti, je suis absolument navré, vraiment difficile liaison avec vous. J'ajoute une dernière information à propos de l'Ukraine. La Chine qui accuse les États-Unis de mettre de l'huile sur le feu à propos des sanctions américaines décidées hier.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Avant d'en venir à la campagne électorale, cette découverte pour le moins inquiétante, une arme dans l'enceinte d'une école. Bonjour Sébastien Sabiron.
Bonjour.
Arme à feu, découverte jeudi dernier avant les vacances, école Jean Lursa de l'île Saint-Denis en Seine-Saint-Denis.
Oui, c'est une arme de poing, a priori un pistolet qui a été découverte jeudi dernier à midi par deux élèves dans le potager éducatif de cette école primaire. C'est un jardin situé dans l'enceinte de l'établissement et auquel les enfants ont accès durant la récréation. L'arme, fort heureusement, n'était pas chargée, les élèves n'y ont pas touché et ont immédiatement prévenu l'équipe éducative qui a fait intervenir la police. Valérie Gautron est la mère d'une élève de CM2 à l'école Jean Lursa.
L'île Saint-Denis, c'est une île. D'un côté, il y a Saint-Ouen. De l'autre côté, il y a Gennevilliers. L'école est tout près de la rue qui est dans le prolongement des deux ponts. La commune, comme les communes environnantes, sont touchées par le deal. On suppose que l'arme en question a été jetée par quelqu'un qui, d'après les informations que j'ai, est recherché. Forcément, ça fait un choc. Hein. Personne n'a envie que ce genre d'affaires arrive dans l'école où sont ses enfants.
Un choc et une réaction immédiate des parents d'élèves qui ont écrit à leurs élus et qui, dès le lendemain matin, étaient conviés à une réunion devant l'école en présence du maire de la commune. Il leur a assuré que le sujet est pris très au sérieux. Parmi les mesures de court terme, il est prévu de rehausser la clôture de l'école qui longe la rue. Les parents réclament aussi une présence policière accrue aux abords de cet établissement qui est situé entre deux cités. Alors cette semaine, les enfants sont en vacances, mais certains s'y rendent tous les jours dans le cadre du centre de loisirs. Dès la rentrée, ils seront informés de la conduite à tenir au cas où ce type d'événement viendrait à se reproduire.
Vacances cette semaine et la suivante. Merci Sébastien Sabiron. La campagne électorale à présent, plus personne ne doute qu'Emmanuel Macron sera candidat à la présidentielle. La question maintenant est celle de son entrée en campagne. Quand et comment? Un jalon est posé depuis ce matin. Simon Le Baron, information de l'AFP dont vous avez eu confirmation, le premier meeting du Macron candidat se tiendra à Marseille.
Et ce sera le samedi 5 mars au parc Chano, grand parc des expositions juste à côté du Vélodrome. Démonstration de force donc à Marseille pour lancer la campagne. L'idée était dans l'air depuis quelque temps, nous vous en parlions sur Inter. Plusieurs membres de son équipe la confirment. Il y a une certaine logique. D'abord sur la date, on sera au lendemain du dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel et le président aura enfin les deux pieds dans la bataille puisqu'il officialisera sa candidature la semaine prochaine. Sur le lieu, ensuite, Emmanuel Macron a toujours clamé son amour pour la deuxième ville de France. Laboratoire social de la Macronie s'enflamme l'un de ses proches. Il y avait annoncé à la rentrée plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement et ce sera une façon pour lui de parler rétablissement des services publics, éducation, égalité des chances, des sujets dont il veut faire des axes forts de sa future campagne. Et puis Marseille, par sa diversité, c'est l'anti-Zemmour, ajoute même un marcheur local. Emmanuel Macron est donc plus que jamais candidat, il ne lui reste plus qu'à le dire.
Et dans 9 jours, les candidats devront avoir déposé les 500 parrainages requis auprès du Conseil constitutionnel. Et 3 candidats très bien placés dans les sondages affirment avoir du mal à les obtenir. Jean-Luc Mélenchon en est à 442, Marine Le Pen à 393 et Éric Zemmour à 350 sur 500. Le Premier ministre Jean Castex appelle les élus locaux à parrainer les candidats au nom de la démocratie. Il voulait organiser, le Premier ministre, une réunion sur ce thème demain. L'Association des maires de France refuse d'y participer. Son vice-président André Daniel.
L'AMF ne participera pas à la réunion voulue par le Premier ministre demain, tout simplement parce que la démarche du Premier ministre est, c'est un mot faible, surprenante. Voilà une majorité qui, depuis 5 ans, aurait pu modifier les règles de parrainage. Donc, se réveiller à 10 jours de l'échéance pour donner le sentiment qu'on veut favoriser une démarche démocratique est pour le moins saugrenu. Et ça ressemble, quelque part, plus à une manœuvre de communication qu'à une véritable démarche. C'est clairement une démarche de pression. Et les maires sont assez grands, sont des démocrates, sont élus par le peuple. Ils n'ont pas besoin que l'exécutif vienne leur donner quelques directions que ce soit dans un domaine qui relève de leur conscience et de leur choix.
Le vice-président de l'AMF, Association des maires de France, André Léniel, avec Victoria Coussa de France Info. L'association des régions de France et celle des départements devraient également boycotter cette réunion. Plus d'étudiants en médecine dans la région la moins dotée en médecins, le Centre Val-de-Loire. Hier, Jean Castex a annoncé l'ouverture d'une filière d'études de médecine à l'université d'Orléans. Sophie Becherel, l'hôpital d'Orléans va donc devenir un CHU comme université.
En plus de la fac de médecine de Tours, Orléans aura en effet son pôle de formation. 98 médecins généralistes pour 100 000 habitants contre 124 en moyenne à l'échelle nationale. Moins de spécialistes qu'ailleurs, il était temps, selon le président de région François Bonneau, qui réclamait cette décision depuis des années.
Depuis un grand nombre d'années, nous demandions avec beaucoup d'insistance l'augmentation du nombre de médecins formés. On veut 2 pôles hospitalo-universitaires pour que nous ayons des étudiants ici dans le Loiret, et ça va irriguer l'Eure-et-Loir avec Chartres, ça va irriguer le Cher avec Bourges, l'Indre avec Châteauroux, qu'on ait un ensemble de 500 étudiants à l'échelle de cette région.
500 médecins formés, c'est comparable à ce qui se fait en Normandie ou en Bourgogne-Franche-Comté. Les premiers deuxième années pourraient arriver dès la rentrée prochaine. Il faut encore étudier la faisabilité de ce projet et pour cela, le Premier ministre a confié le dossier à des inspecteurs généraux de la santé et de l'enseignement supérieur. Soulagé, le sénateur du Loiret, Jean-Pierre Sueur, restera vigilant. Il l'a dit à nos confrères de France Bleu.
Qu'on ne nous donne pas des miettes, mais qu'il y ait une vraie formation de médecine du début à la fin. Il faut un cursus complet, parce qu'il ne faut pas que la décision de principe reste une décision de principe. Il faut qu'elle soit mise en œuvre année après année, jusqu'à la fin.
Il y a quelques semaines, le maire d'Orléans avait lancé la piste d'une formation privée en lien avec Zagreb, en Croatie. Le Conseil de l'Ordre s'en était ému. Rien ne dit que cela ne se fera pas, mais cette formation n'a rien à voir avec la création d'une filière publique adossée donc à l'hôpital.
Avec près d'un an de retard, Sanofi annonce que son vaccin anti-Covid fonctionne. L'entreprise va demander une autorisation de mise sur le marché. Dans un communiqué, elle fait valoir que l'essai clinique a montré une efficacité à 100% contre les formes sévères et les hospitalisations et 75% contre les formes modérées de Covid. Le vaccin Sanofi GSK, laboratoire associé, serait valable en primo-injection, mais aussi en rappel et pour toutes les tranches d'âge. L'actualité économique, Stellantis, le constructeur automobile, semble bien sorti de la crise. Le groupe, fusion de PSA et de Fiat Chrysler, vient de publier ses résultats 2021. Bénéfice net à 13,4 milliards d'euros, c'est 3 fois plus qu'en 2020. À côté, le principal concurrent tricolore Renault fait pâle figure, qui ne dépasse pas le milliard d'euros de bénéfices en 2021. Bonjour Thomas Giraudot.
Bonjour.
Comment on explique une telle différence?
Bien d'abord, Stellantis est parti avec une bonne longueur d'avance sur Renault l'année précédente en 2020, en pleine crise sanitaire. Stellantis dégageait quand même un bénéfice 2 milliards d'euros, quand de son côté, Renault était au fond du trou, 8 milliards de pertes. Stellantis est aussi beaucoup plus implanté en Amérique du Nord, où le marché est bien reparti. C'est là-bas que le géant automobile a réalisé une bonne partie de ses profits en 2021. Les Américains achète par exemple en masse la Jeep Wrangler, une des meilleures ventes de Stellantis. Et puis Stellantis récolte aujourd'hui les fruits d'une stratégie lancée bien avant Renault, celle de produire moins de véhicules, mais de les vendre plus cher. Les feux sont verts donc pour Carlos Tavares. Mais le directeur général de Stellantis était tout de même prudent ce matin sur France Info.
Les crises sont encore présentes. J'espère que celle du Covid va maintenant disparaître. Nous avons encore une crise d'approvisionnement des semi-conducteurs qui est une réalité, même si la tendance est à l'amélioration, mais c'est une tendance qui est très très lente.
Mais cette crise des semi-conducteurs renforce en fait la stratégie de Stellantis, selon un expert du secteur. À cause de ce manque de composants, le constructeur doit faire des choix, quel véhicule produire plutôt qu'un autre. Et évidemment, il fait sortir de ses usines les plus rentables et les plus chères.
Nous en venons à la chronique cinéma du mercredi. C'est avec Alexis Demeyer cette semaine. Bonjour Alexis.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Le temps de vous installer, de mettre le micro, tout est bon. L'actualité des sorties ciné cette semaine, c'est notamment cette immersion chez les Gilets jaunes. Un peuple, documentaire qui s'intéresse à plusieurs habitants de la région de Chartres qui ont décidé fin 2018, comme d'autres un peu partout en France, d'occuper un rond-point et une barrière de péage.
Oui, la caméra du réalisateur Emmanuel Gras suit Agnès, Nathalie, Benoît et Alan dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leur déplacement le samedi à Paris, au cœur de ces manifestations violentes réprimées par les CRS. Un peuple est un film coup de poing avec une dimension cinématographique impressionnante. Par exemple, les mouvements de caméra dans les scènes d'émeute relèvent du grand art. Il y a aussi de très beaux plans du rond-point dit de Basic Fit que le groupe des Gilets jaunes de Chartres occupe jour et nuit. On y fait la connaissance de plusieurs personnages marquants, émouvants, qui incarnent ce mouvement si difficile à définir. Un peuple laisse d'ailleurs une large place au questionnement de ces Gilets jaunes qui doutent et débattent beaucoup et qui cherchent à s'organiser collectivement. Effectivement, sans leader, on est témoin d'une utopie de démocratie directe et horizontale sur fond de forte précarité.
Quand tu es vraiment dans la misère, tu en parles à personne. Et c'est ça qui est beau aussi dans les Gilets jaunes, c'est qu'on s'est aperçu qu'on n'était plus seul, quoi, à avoir cette honte. Et du coup, on n'a plus honte.
La maison près des HLM a fait place à l'usine et au super.
Voilà le cinéaste Emmanuel Gras qui a eu la bonne idée de convoquer cette chanson de Nino Ferrer dans Un peuple que je vous recommande chaudement.
On l'a compris, à l'affiche également cette semaine Alexis, Zaï 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 Zaï.
Oui, un titre qui fait cette fois-ci référence à une chanson de Joe Dassin, adaptée de la BD à succès de Fab Caro. Cette farce signée François de Zania évoque les travers de la société de consommation.
Fais pas le con, lâche le poireau. Je suis pas un bandit, je l'ai ma carte. Calme-toi, pose ce poireau à terre et tout se passera bien.
Un film qui réunit un beau casting, Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Yolande Moreau, mais qui nous laisse un peu sur notre faim. Cette comédie est inégale et ne parvient pas toujours à donner corps à l'absurde et au burlesque qui faisait tout le sel de la version bande dessinée.
Troisième film examiné cette semaine, Alexis, un film russe, Les Poings Desserrés.
La jeune réalisatrice Kira Kovalenko frappe un grand coup avec ce film tourné en Ossétie du Nord qui a reçu le prix Un Certain Regard au dernier festival de Cannes. Ada, l'héroïne, est une adolescente à fleur de peau qui souffre d'une maladie grave et qui tente de se délester du poids du patriarcat qui l'empêche d'avancer.
Et c'est un film inter. On entendra d'ailleurs une interview de la réalisatrice dans votre chronique Le Cinéma en VO tout à l'heure, 18h50 dans Un Jour dans le Monde avec Fabienne Saintès. Merci Alexis Demeyer. Une dernière information avant la météo pour vous dire que votre radio va changer de patronne. Cela faisait 8 ans que Laurence Bloch dirigeait France Inter, la première radio de France. Et c'est une femme qui lui succédera, Adèle Vendrette, une des voix de France Culture. Elle anime et produit Les Chemins de la Philosophie. J'ai choisi un pur produit maison à la tête de France Inter, dit la présidente de Radio France, Sybille Veil, dans une interview au quotidien Le Monde. Adèle Vendrette a 39 ans. Elle prendra la succession de Laurence à la fin de l'été. Et à propos de notre radio, si vous voulez être juré du prix du livre Inter, il est temps de nous écrire. Deux moyens, via notre site internet franceinter.fr. Vous trouverez à la une un lien rouge prix du livre Inter et vous serez guidé. Ou bien par voie postale classique, une belle lettre parlant de vous et de votre amour des livres. Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Eva Bétan vous attend. La météo dans un instant.
Pour Arnaud, retrouver son souffle, ce n'est pas important, c'est essentiel. Pour son bien-être, bien sûr, mais aussi pour pouvoir continuer longtemps de rouler avec son club de vélo. Avec la médecine thermale, prenez naturellement soin de vous pour bien vivre aujourd'hui et pour mieux vivre demain. Trouvez votre cure thermale sur médecinethermale.fr. La médecine thermale, restez soi-même et pour longtemps.
France Inter aime
Small World, le nouvel album de Métronomie. Le retour de l'électropop britannique. Métronomie, en concert au Zénith de Paris le 6 avril et en tournée à Strasbourg, Lille, Rennes, Montpellier. Retrouvez Small World, le nouvel album de Métronomie, dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Le temps de ce jour.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Le programme de l'après-midi, dégradé nuageux entre le nord et le sud.
Oui, prévoyez un temps essentiellement nuageux dans un grand quart nord-ouest du pays, d'assez belles éclaircies en allant vers le nord-est, le centre-est et le centre. Et puis le soleil va briller généreusement entre le sud-ouest et le massif alpin, sans oublier l'île de Beauté. Et puis côté température, les maximales afficheront 10 degrés à Lille et Cherbourg, 12 dans la capitale comme à Orléans et Nancy, comptez 13 à Dijon, 14 à Strasbourg, 15 à Lyon. Ça sera nettement plus doux dans le sud-ouest et le sud, avec 16 à Bordeaux et Toulouse, 17 à Bastia, 19 à Marseille, on ira jusqu'à 20 degrés à Perpignan.
Merci Jean-Pierre Rameau, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Le premier tour de la présidentielle est dans 46 jours. Alors que l'entrée officielle en campagne d'Emmanuel Macron semble à nouveau reportée à cause de la crise en Ukraine, à droite et à l'extrême droite, la bataille reste très serrée entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Selon un dernier sondage de l'Institut Elabe, léger avantage à Marine Le Pen, en hausse, Éric Zemmour vient derrière, Valérie Pécresse est en baisse. On est dans la marge d'erreur. Invité du 13-14 aujourd'hui, le porte-parole d'Éric Zemmour dans cette campagne, vice-président de son parti Reconquête, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. Bonjour Guillaume Pelletier.
Bonjour.
À un peu plus de 6 semaines du premier tour, c'est l'actualité internationale qui devient un sujet de campagne. Est-ce que vous redoutez une opération militaire massive des Russes en Ukraine qui irait au-delà d'un appui aux séparatistes du Donbass?
D'abord, il faut tout faire pour éviter cette guerre. Bien sûr que le risque existe, on le voit depuis plusieurs jours. Notre position avec Éric Zemmour, elle est claire, elle s'inscrit dans la politique et la vision gaullienne de la France. Puisque la France et puisque l'Europe n'ont pas su ces dernières années incarner cette voie d'équilibre entre toutes les hégémonies du monde, n'ont pas su rassurer la Russie sur sa volonté légitime de protéger sa propre sécurité. Vous savez que la question centrale de l'OTAN aux portes et aux frontières de la Russie, nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. Ce que nous proposons...
Mais on est d'accord que la guerre ou le climat de guerre est du fait de la Russie aujourd'hui, depuis le début de la semaine.
Si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. Bien sûr que nous déplorons les agissements de la Russie aujourd'hui, mais tout ça est la conséquence d'une incapacité de l'Europe et de la France en particulier à rassurer Vladimir Poutine et les Russes de leur droit fondamental à la sécurité. Nous, ce que nous proposons, c'est ni de ne se soumettre aux Russes, ni de se soumettre aux Américains. C'est que la France, comme le fit le général de Gaulle, comme le fit, rappelez-vous, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, en 2003, sur la question de la guerre en Irak, c'est de proposer un nouveau traité. Un traité qui reposerait sur deux piliers fondamentaux. Un, le principe des frontières intangibles pour protéger l'Ukraine des agissements de la Russie. Deux, la garantie pour les Russes que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN, qui est considérée à juste titre par les Russes comme une menace.
Imaginons qu'il n'y a aucun processus d'intégration de l'OTAN, puisque ça a été écarté il y a quelques années.
Oui, sauf que, comme vous le savez, Vladimir Poutine regrette, à l'exception du chancelier allemand, que l'Europe et les États-Unis et l'OTAN ne se soient pas engagés clairement et définitivement sur le fait que l'Ukraine n'appartiendrait jamais à l'OTAN. Et
pourquoi le ferait-il ? Juste pourquoi le ferait-il ? Pourquoi s'engagerait-il, un, l'Ukraine et deux, l'OTAN, à ce que l'Ukraine n'intègre jamais l'OTAN ? Pourquoi le ferait-il ? Sachant que l'Ukraine est un pays indépendant et souverain.
Mais vous rendez compte l'erreur d'analyse profonde de l'OTAN ? L'OTAN, c'est cette idée ancienne qui consistait à dire qu'il y a un affrontement entre l'Ouest et l'Est, et donc l'OTAN protège plutôt les pays de l'Ouest face à l'Est. Nous considérons que ce sujet, il n'existe plus. Il faudra toujours être vigilant, mais que l'hégémonie américaine aux frontières de l'Europe et de la Russie est une source, la preuve, de conflit. Et qu'il s'agirait bien plutôt aujourd'hui de recréer des alliances entre l'Europe et la Russie, par exemple, comme nous l'avons, il faut les garder entre l'Europe et les États-Unis pour lutter contre ce qui nous menace le plus, ce qui menace le monde, c'est le terrorisme islamique. Donc, juste pour que chaque auditeur comprenne bien, nous ne sommes avec Éric Zemmour ni soumis à Vladimir Poutine, mais pas plus aux Américains. Nous proposons un traité nouveau pour sortir de cette énième redite de la guerre froide et pour dire, un, les frontières de l'Ukraine sont intangibles. Oui, donc on est clair. Deux,
pardon,
frontières
intangibles, ça veut dire que l'Ukraine récupère l'intégralité de Donetsk et Lugansk, de ces régions-là, par exemple, et la Crimée.
Bien sûr que dans le cadre de ce traité, il faut que les Russes fassent un pas par rapport à ce que vous venez de dire, et deuxièmement, que l'OTAN et les Américains acceptent de s'engager à ce que l'Ukraine n'appartienne jamais à l'OTAN. C'est très important de le comprendre, c'est une nouvelle philosophie. Au fond, nous n'inventons rien, nous redisons, la France qui est aujourd'hui, qui apparaît comme la vassale des États-Unis, n'est plus audible et crédible. Regardez l'échec d'Emmanuel Macron.
Juste à deux reprises, Guillaume Pelletier, vous avez mis comme un signe égal entre la volonté de ce que vous appelez la volonté d'hégémonie américaine et au fond la volonté de puissance, appelons-le comme ça, de Poutine. On est bien d'accord tout de même que ce soit pour la Crimée, pour Lugansk, Donetsk, il y a 8 ans et aujourd'hui, c'est d'abord Poutine qui est l'agresseur dans l'analyse.
Mais c'est la Oui, mais...
Je dis ça parce que vous semblez mettre un signe égal avec ce que vous appelez l'hégémonie, la tentative d'hégémonie américaine.
Vous pouvez avoir raison, mais sur les années antérieures, vous pouvez avoir tort. Vous savez que la diplomatie, c'est un peu plus subtil que tout est blanc, tout est noir.
Bien sûr, mais là, on est à l'analyse d'une crise.
Oui, mais pour en sortir, c'est tout l'inverse entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a voulu, on l'a bien vu, faire le malin, surcommuniquer sur un certain nombre, d'ailleurs,
d'échecs. Est-ce qu'il a bien fait de croire à la diplomatie jusqu'au dernier moment ?
Il a bien fait. Bien sûr, je l'ai dit dès le départ, et Éric Zemmour aussi, de tout faire pour engager la France dans la voie diplomatique avec une erreur. Vous savez ce qui fonde la diplomatie ? C'est le secret, ou au moins la discrétion. Et faire le malin que de dévoiler avant un accord définitif les dessous de l'accord, ça blesse la personne avec laquelle vous discutez. Donc nous disons, pour remettre tout à plat, on s'inscrit dans les pas du général de Gaulle, la France redevient cette puissance d'équilibre et de contrepoids face à toutes les hégémonies, nous retrouvons notre indépendance, nous ne sommes soumis ni aux Russes ni aux Américains, et nous proposons un nouveau traité à tout le monde, avec les 27 et avec les Russes. 1. Les frontières sont intangibles. 2. L'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN.
Pourquoi Poutine écouterait-il cette France qui dirait cela, qui deviendrait potentiellement puissance d'équilibre ? Pourquoi l'écouterait-il davantage qu'il n'a écouté Macron ces derniers jours ?
Pour une raison simple, c'est que Vladimir Poutine, d'ailleurs, l'a dit à demi-mot dans son interview, c'est qu'il méprise ceux qui ne défendent pas de manière acharnée leur propre intérêt et leur propre indépendance. Et Emmanuel Macron et l'Europe, depuis bien longtemps, surtout avec l'intégration au commandement intégré de l'OTAN, ont démontré, sur un certain nombre de sujets, leur soumission aux Américains. Pour redevenir cette puissance d'équilibre, vous savez, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, c'était pas il y a si longtemps, il y a presque une vingtaine d'années en 2003, avaient su dire non aux États-Unis. Et parce qu'ils avaient su dire non aux États-Unis, la France était redevenue écoutée par les nations arabes, par la nation russe et par toutes, au fond, les nations libres du monde.
Encore une question, vous l'avez reçue comment, l'allocution de Poutine ? C'est plus d'une heure de propos avec des termes très agressifs, une partie de révisionnisme en niant l'idée même d'une existence authentique du pays ukrainien. Vous l'avez reçue comment ? Il y a beaucoup de spécialistes qui disent il y a un problème d'équilibre et de paranoïa chez Poutine.
Oh, vous savez, je ne suis pas l'expert le meilleur au monde. J'ai été professeur d'histoire-géographie. Ouais. Je sais que...
Je vous dis ça parce que ça joue aussi dans cette crise et dans l'analyse qu'on peut avoir de cette crise. Est-ce qu'il n'y a pas un homme isolé qui...
Dans la diplomatie, il y a l'art aussi. On peut le regretter, mais c'est un fait qui date de plusieurs siècles ou millénaires. Il y a l'art de la provocation, il y a l'art de l'exagération. Il faut entendre ce qu'a voulu dire Vladimir Poutine, comme il faut entendre ce que disent nos amis ukrainiens. Je crois que l'équilibre pour sortir de cette guerre froide, qui hélas peut un jour basculer dans une vraie guerre, c'est de dire... On entend les positions des uns et des autres. On a bien entendu que la Russie tenait à sa sécurité, donc pas d'OTAN à ses frontières. Par contre, on demande aux Russes, de manière certaine et ferme, qu'on ne touche pas aux frontières de l'Ukraine.
Les parrainages et Marie au standard. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je vous remercie de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Donc, je voulais tout simplement témoigner. Je suis une militante LR. Et je trouve absolument inadmissible que certains partis ne puissent pas être présentés aux élections présidentielles. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les politiques de tous bords ne s'en sont pas inquiétés un petit peu plus tôt. Mais il faut absolument, absolument parrainer tous les gens qui désirent se présenter aux élections. Sinon, ce serait un déni de démocratie. Et je pense que notre société abîmée, lézardée, n'a vraiment pas besoin de cela.
Merci Marie pour votre intervention. Guillaume Pelletier, on se dit toujours que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, il y a un peu de mise en scène, de l'inquiétude. Et puis bon, ils les auront, les parrainages. Est-ce que vous êtes sincèrement, réellement inquiet sur le fait d'avoir ces 500 signatures ? Vous êtes à 350 de mémoire.
J'aimerais tellement vous croire. Vous savez qu'avec Éric Zemmour, Philippe de Villiers et toute une équipe extraordinaire, je parle pour nous, c'est sans doute le cas chez M. Mélenchon et Marine Le Pen, nous y passons 10 à 12 heures par jour chacun. Ce qui est très injuste par rapport à d'autres candidats qui, eux, ne font que campagne. Nous, on fait campagne, plus on doit rechercher les parrainages. Oui, Marie a raison, c'est-à-dire que le général de Gaulle avait inventé un système qui était très équilibré, qui consistait à dire, pour éviter les candidatures fantaisistes, il faut un certain nombre de parrainages. Mais on garantissait, comme pour le vote, qui est secret, je le rappelle, l'anonymat des maires. François Hollande a décidé de rendre public tous les noms des maires qui parrainent, transformant ce système vertueux en système vicieux qui permet aux gros partis politiques, aux vieux partis politiques qui pourtant ont tant échoué depuis 40 ans dans notre pays, d'empêcher l'émergence de candidatures nouvelles comme celle d'Éric Zemmour.
Donc, si vous demandez une réforme, c'est celle de l'anonymat.
Ah oui, au moins celle-ci. Il faudra...
Même si par des élections passées, elle a pu être utilisée pour pousser un candidat par en dessous et faire des petites manips politiques.
Oui, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra un système, un jour, d'équilibre entre l'anonymat des parrainages des maires et puis, sans doute aussi, une présentation par les citoyens, par les Français. Hein. 50 000, 100 000, 200 000, enfin, on n'en est pas là.
Ça fait
et pour répondre bien à Marie,
pour
bien le comprendre... Oui, vous avez raison. Pour bien comprendre ce que dit Marie, nous avons demandé, moi je suis député, depuis notre élection en 2017, toute la nouvelle génération, au président de la République et au gouvernement, de changer ce système. Emmanuel Macron pouvait encore le faire il y a un mois, par une loi constitutionnelle, ça n'a pas été fait, nous le regrettons, on se bat, en manque encore, on va y arriver, mais c'est excessivement chronophage, et donc je lance à nouveau un appel aux maires. Oui, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, et bien sûr notre candidat Éric Zemmour, qui est au pied du second tour, doivent pouvoir se présenter à l'élection présidentielle.
La semaine dernière encore, vous disiez on a plus de 500 promesses de parrainage. Vous aviez gonflé les chiffres ou qu'est-ce qui se passe ?
Non, vous savez, maintenant c'est plus une question de chiffres, c'est une question de parrainage. Il y a d'abord un travail sur les promesses avant que les formulaires officiels arrivent.
Mais comment on passe de plus de 500 promesses à 350 seulement parrainages, en tout cas pour l'instant ?
Ah bah, vous savez, dans la vie, il y a ceux qui promettent, y compris par écrit, qui mettent un peu de temps à envoyer leur parrainage. Le Conseil constitutionnel a reconnu qu'il met parfois plus d'une huitaine de jours à pouvoir traiter les parrainages. Donc, il en manque encore à l'heure où je parle. Nous allons y arriver, mais vraiment, il faut que tous les maires qui ont promis, si tous les maires qui nous ont promis finissent par envoyer leur parrainage, il n'y aura pas de problème. Mais c'est notre défi aujourd'hui. Il faut que chaque maire s'engage et que donc, même ceux qui n'ont pas promis se disent, est-ce qu'il serait démocratique et sain et légitime pour cette élection présidentielle, par exemple, qu'Éric Zemmour, qui représente aujourd'hui, vous l'avez dit, 14, 15, 16% des voix dans les sondages, ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Ce serait une élection qui, pour l'un des candidats absents que vous avez cité, deviendrait probablement illégitime.
Tout de même, Guillaume Pétier, 42 000 élus qui peuvent parrainer, ça vous interpelle pas de pas réussir à en trouver facilement 500 ?
Ah ben, j'ai été maire. J'appelle des dizaines et des dizaines de maires tous les jours.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ils nous disent, franchement, s'il n'y avait pas de problème d'anonymat, s'il y avait l'anonymat garanti, on aurait 3 ou 4 000 parrains, sans aucun problème. Le nombre de maires, et particulièrement les maires ruraux, les maires indépendants, les maires sans étiquette, qui nous disent, je suis à fond avec Éric Zemmour, vous avez raison, je veux qu'il gagne, mais j'ai peur des pressions du parti politique, des pressions de la communauté de communes, des pressions ou des menaces parce que mon nom va sortir dans la presse, tout ça c'est une réalité. J'ai été maire et je peux vous dire que tous les témoignages que j'entends du matin au soir sont de cet ordre. Il faut que chacun se dise, parrainer, ça n'est pas un soutien politique, c'est permettre sur le plan démocratique au grand courant d'opinion de pouvoir se présenter. D'ailleurs, j'entendais Monsieur Léniel sur votre antenne, permettez-moi de lancer un appel, j'ai vu que David
Lisnard...
C'était
la question suivante.
Je remercie David Lisnard d'avoir symboliquement parrainé Mélenchon en tant que président de droite de l'Association des maires de France en parrainant Mélenchon. Je demande à cet instant, à André Léniel, le numéro 2 de l'AMF, le maire socialiste,
Association des maires de France,
d'Issoudun, de faire la même chose et de parrainer Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Ça, ce serait un beau symbole. Il est quand même particulièrement bizarre. La droite a l'audace de parrainer la gauche. Il faudrait que des gens de gauche aient aussi le courage de parrainer des gens de droite.
Vous seriez prêt à piocher, entre guillemets, dans la banque de parrainage qu'est en train de mettre en place François Bayrou ? Il en a 180, je crois. Si on totalise Mélenchon, vous et Le Pen, il manque à peu près 350 parrainages. Donc ça fait la moitié. Vous seriez prêt à faire appel à cette banque des parrainages que
François Bayrou, je le remercie de son initiative, de demander aux maires qui ont rejoint sa plateforme de parrainer, je crois qu'il l'a dit, les trois candidats qui sont en difficulté. Nous, on fait confiance à nos équipes, on fait confiance à tous ces maires ruraux indépendants qui nous appellent tous les jours et qui disent « Allez, maintenant c'est sûr, on y va ». Parce qu'il faut qu'Éric Zemmour puisse être candidat à l'élection présidentielle. On sait qu'il y aura un duel bientôt entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Faut qu'Éric Zemmour puisse figurer et remporter l'élection présidentielle.
Vous y croyez au second tour ?
Ah oui, bien
sûr. Vous en êtes sûr ?
« Ah, je sens monter en France comme une lame de fond ce grand duel, ce grand débat qui attend les Français entre deux visions de la France et du monde, Emmanuel Macron, une vision mondialiste, et puis la vision des patriotes, des amoureux de la France autour d'Éric Zemmour. »
Emmanuel, non, pas Emmanuel, Étienne au standard, pardon, c'est un aussi. Vous nous appelez du Mans, bonjour Étienne.
Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Pelletier, bonjour aux journalistes de France Inter, merci de prendre ma question. Question très simple mais pas facile à répondre. Quel est le programme de Monsieur Éric Zemmour pour réduire l'endettement abyssal de la France qui s'élève à 2800 milliards de dettes, 100, s'il vous plaît.
115% du PIB. Merci beaucoup Étienne pour cette question. D'abord, vous qui vous revendiquez du souverainisme, est-ce que la question de la dette est une question centrale pour vous ?
Bien sûr, la dette, c'est l'absence de souveraineté, c'est l'absence de liberté, c'est l'absence de marge de manœuvre pour nous et surtout pour les générations qui viennent.
Et pourtant, dans le programme d'Éric Zemmour, les économies ne sont pas tellement financées.
Si, je vais vous l'expliquer et on présentera ça d'ici une quinzaine de jours de manière très très détaillée. Je rappelle d'ailleurs pour ma génération, nous sommes les premières victimes. Quand je suis né à la fin des années 70, il n'y avait quasiment pas de dette en France et 40 années de vie politique. Voilà, aujourd'hui, comme le disait monsieur à juste titre, c'est presque 3000 milliards. C'est vraiment un scandale.
Et
nos propositions sont les suivantes. D'abord, nous mettons fin à l'immigration, 20 milliards d'euros chaque année d'économies sur, entre autres, les aides sociales non contributives. Deuxièmement, nous
luttons... Sachant que ce calcul-là, il est pas facile à faire et donc il est sujet à caution.
En tout cas, c'est le nôtre et ceux de tous nos experts. Deuxièmement, nous luttons de manière acharnée contre les fraudes sociales et fiscales. C'est pas loin, selon les syndicats, de 100 milliards d'euros qui échappent au budget de l'État chaque année. Vous pourrez vérifier ce chiffre. On entame une réforme des retraites, 25 milliards d'euros d'économies. Donc, et puis tout un plan de simplification contre la bureaucratie, la paperasse, les arrêts maladie abusifs.
Et donc ce sera financé plus précisément annoncé plus précisément dans les 15 jours.
En gros, des dizaines de milliards d'économies en mettant fin à l'immigration, à l'assistanat, à la bureaucratie pour enfin redistribuer l'argent des Français à ceux qui travaillent, à ceux qui entreprennent, à ceux qui créent.
Merci Guillaume Pelletier, porte-parole du candidat Éric Zemmour, d'être venu dans les studios de France Inter. 13h46.
France Inter. Le 13-14.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Dubic.
À suivre dans 10 minutes le vif de l'histoire, nouvelle chronique sur l'Ukraine. Aujourd'hui, la religion pèse-t-elle dans la rage de Vladimir Poutine contre l'Ukraine ?
Poutine, porte-parole de l'État impérial et de l'orthodoxie.
Rendez-vous dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton, le témoignage d'un ancien appelé de la guerre d'Algérie. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Alina Fanoukoé.
Bonjour Bruno.
Deux jumelles à votre micro. Aujourd'hui, le duo IBI est avec vous.
Lisa Kainde et Naomi Diaz ont tissé un lien solide entre leur culture yoruba et les musiques modernes. C'est leur père, l'exceptionnel percussionniste cubain, le regretté Miguel Anga Diaz, qui est à l'origine du disque dont elle nous parle aujourd'hui, Whenever, Wherever, qui a révélé Shakira dans le monde entier il y a tout juste 20 ans. Elles m'ont raconté comment elles ont découvert cette chanson.
En fait, notre père qui vivait à l'époque en Espagne, on avait peut-être 8 ans. Je pense qu'on avait 8 ans, parce que c'était en 2002, nous donne de l'argent et nous dit « Ben voilà, vous avez le monde de la musique devant vous, on va vous acheter votre premier CD. » Et donc il dit « Il y a le jazz de ce côté, il y a la musique classique de ce côté, il y a le hip-hop de ce côté, il y a la pop, qu'est-ce que vous allez choisir ?» Et ben Naomi a choisi Shakira, « Whenever, whenever ». Moi j'adorais l'intro. « Pam, 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 pam ». Pam 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 pam. Tank 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 tank. Papa n'a rien dit, mais du coup ça nous fait rire parce que je pense qu'il aurait aimé qu'on choisisse, je sais pas, Thelonious Monk ou... Bah oui, au Coltrane. Mais non, il n'a rien dit. Et on a écouté cette chanson en boucle tous les jours pendant tout l'été. Et on dansait sur la même chanson devant le miroir tout l'été. Et il n'a jamais rien dit. Il nous a toujours laissé et il souriait. Ça le faisait rire. Et on adore cette chanson. Pour nous, c'est vraiment... c'est comme cette Madeleine de Proust de ce moment-là.
Oui,
puis c'était l'époque, la grande époque de MTV. Et donc du coup,
MCM.
On regardait les vidéoclips et le clip de Whenever, Whenever, là, quand elle a les chevaux qui passent de chaque côté, qu'elle commence à danser dans le sable. C'était inspirant pour nous. On était, mais c'est dingue. Voilà. Du coup, on essayait de reproduire les mouvements de hanches de Shakira.
«
Whenever, Wherever de Shakira, c'est donc le choix Alina Fenoukoé d'IBI et c'est un extrait du cinquième album de Shakira qui s'appelait Laundry Service.
Servicio de lavanderia dans les pays hispanophones et c'est le premier album de Shakira à contenir des chansons en anglais. IBI qui a collaboré avec de prestigieux artistes de Beyoncé à Gaël Faye n'a encore jamais rencontré Shakira mais elle pense toujours à cet artiste qui leur a procuré leur premier gros frisson, leur premier gros choc musical.
Dans notre chanson qui vient de sortir, on parle de Shakira, parce qu'on dit « Dancing along with Shakira ».«
Dancing in front of the mirror, singing along with Shakira ».
Elle a sa propre intonation qui a changé le monde. Il y a qu'elle qui chante comme ça, il y a plein de gens qui l'interprètent. « Olé, olé, olé ». Bah oui, la Colombienne qui a conquis le monde entier.
Est-ce que vous savez si votre père un jour a regretté de vous avoir acheté ce disque quand même parce que...
Non, jamais.
Je pense qu'il a jamais regretté. Et je pense qu'au contraire, il était très fier qu'on soit intéressé par la musique. Peu importe le type de musique, je pense qu'il était fier que ça venait de l'intérieur, que ça nous fasse danser. Il était fier que ça nous rende heureuse. Il était fier que ça nous éveille. Et je pense que c'est ça que nos parents ont toujours eu envie de nous transmettre. Mmh. C'est ce goût de la musique, peu importe quel genre de musique. Peu importe d'où tu viens, c'est bon, ça fait du bien.
Whenever, Wherever de Shakira, titre choisi par les sœurs IBI aujourd'hui.
Que l'on retrouve dans un nouvel album très spirituel intitulé Spell 31, inspiré d'un poème tiré du livre des morts de l'Égypte ancienne, à découvrir le 6 mai. Et leur nouveau single Sister to Sister est déjà disponible.
Alina Fanoukoé, à demain.
À demain, merci.
Troisième épisode de notre feuilleton avec Rémi Serre, ancien appelé en Algérie, près de 60 ans après les accords d'Évian. Il a aujourd'hui 84 ans, il vit dans le Tarn, et c'est une vision très sombre de cette guerre du côté de l'armée française qu'il garde. C'est le témoignage d'un antimilitariste qui reconnaît qu'il n'a rien dit sur le coup, et longtemps après, il est avec Thibaut Cavaillès.
Il y en a qui s'amusaient à tirer sur un bourricot pour jouer. Il y en avait qui s'amusaient à mettre le feu à la grange. Il y en avait qui s'amusaient à éventrer les jarres là où il y avait 50 kilos d'orge, mais c'était encore la provision de l'année. Moi, je n'étais pas sain, hein, mais j'étais pas. Ça me faisait toujours mal de voir souffrir des gens.
Vous dites que vous n'étiez pas sain, vous avez fait des choses que vous regrettez aujourd'hui ?
Non.
Vous avez réussi à rester intègre ?
Oh, je crois, oui. Ne me parlez pas de viol et tout ça. Il y avait des gens qui violaient. Moi, je l'ai jamais vu, mais je sais qu'il y en a. Il y en a été un certain nombre où ça ne serait pas venu à l'esprit de violer une femme, alors que ça se faisait.
Comment vous avez réussi à rester intègre comme ça ?
Ah, ça m'est difficile à dire. Hein. Peut-être l'éducation que tu as eue, peut-être par nature, il y en a de plus ou moins méchants que d'autres. Je ne peux pas te dire. Ou alors que je n'ai pas vu assez d'horreur. Peut-être que si j'avais vu tous mes copains tomber à côté de moi, je ne l'ai pas vu ça non plus.
Qu'est-ce que vous avez vu ?
Ah, j'ai vu la torture surtout. Tous prisonniers étaient systématiquement, plus ou moins, torturés.
Non, mais j'ai pas dit que ça n'a pas existé. C'est, tout le monde le dit qu'il y a eu la GGE. Hein?
Général Osarès, dans le journal de France 2, le 3 décembre 2000.
On pouvait pas faire autrement ?
Oh non, écoutez, je coupe là-dessus. Non, n'emmerdez pas avec ça. Hein? Non, non, ça suffit. On en parle toute la journée, il y en a marre.
Ah, mais c'est quoi la GGE ? On t'envoie du courant dans les corps. On te branche. Testicules, on te branche à l'oreille, les endroits les plus sensibles, et puis tourne la manivelle, ça fait du courant. Je ne l'ai pas vu, j'ai entendu. Parce qu'il y avait la guitoune à côté où on torturait les gens. Ceux qu'on pensait qui étaient un petit suspect, ils étaient torturés au poste et puis quelques fois relâchés, très rarement, parce qu'ils étaient tellement battus qu'ils les relâchaient rarement.
Ils mouraient ?
Il les tuait.
Corvée de bois ?
Oui.
Vous nous racontez la corvée de bois ?
Oh, la corvée de bois, c'était facile. Ils prenaient le gars et ils allaient vers le bois. Et à bout d'un moment, ils disaient, t'es libre, tu peux repartir. et j'ai tiré dessus, ouais, j'ai tiré, voilà. Voilà.
Vous, Rémi, est-ce que vous avez changé de façon de voir les choses pendant les 2 années en Algérie? Parce qu'il y en a qui sont arrivés en anti-guerre et qui ont changé et qui sont devenus des petits chefs. Vous, ça vous est arrivé, ça?
Non.
Et vous en connaissez?
Mais bien sûr, je connais un homme Gerland qui est mort maintenant et qui disait qu'il avait tué un prisonnier et que même il y avait, moi, il m'a dit personnellement qu'il y avait pris du plaisir. Et il raconte comment, lui, il était un jeune gentil comme beaucoup et que petit à petit, c'était devenu un guerrier et qu'il avait pris du plaisir à faire la guerre. Mais voilà, on peut comprendre, hein, moi je peux comprendre qu'il y ait des gens qui en arrivent là. Nous, un soir, on discutait là, dans la chambrée, là. Et moi, je parlais avec un Basque, je ne me rappelle plus des noms. Et puis le lendemain, ils sont partis en opération. Et moi, je suis resté au poste. Mais ceux qui sont partis, le soir, il y avait 16 lits vides, dont ce Basque.
Les gars qui ont été tués.
Oui, alors il y en a qui sont prêts à venger, qui sont prêts à tuer tout ce qui bouge. Mais je ne sais pas, moi, ce qui m'a empêché. Peut-être qu'il y avait un fond à l'époque de catholicisme, j'en sais rien.
Le feuilleton réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire et votre regard, Jean Lebrun, depuis le début de la semaine sur l'Ukraine. Parmi les griefs de Poutine contre l'Ukraine, il en est un qu'il ne faut pas sous-estimer, selon vous, et qui touche à la religion. Selon lui, les dirigeants de l'Ukraine voudrait déchirer l'unité de l'orthodoxie russe.
Oui, Poutine nous a toujours présenté comme un ancien du KGB, sans doute, mais c'est aussi un nouveau converti. Il fallait bien trouver un substitut à l'idéologie communiste effondrée. Il a restauré l'orthodoxie et le clergé s'est aussitôt emparé des avantages matériels que lui procurait cette aubaine. Le clergé qui s'est en revanche rarement interrogé sur les inconvénients qu'a pu avoir dans son histoire. La soumission au pouvoir, il y aurait gagné en autorité, au sens moral et spirituel du mot. Un amendement de 2020 à la Constitution assure au Kremlin le monopole de la vérité historique. Alors voici le récit qu'il sert à chaque occasion. Au Xe siècle, la Sainte Rousse a trouvé son berceau à Kiev grâce à l'action du prince Vladimir. La Sainte Rousse, avec ses pèlerinages pratiqués et ses saints vénérés en commun, c'est l'Ukraine, groupée sous la main de Dieu avec la Russie et la Biélorussie. Pour le Kremlin, c'était déjà l'ébauche d'un État impérial. En réalité, une union de tribus assez disparate qui a éclaté au bout d'un moment en principautés distinctes. Mais peu importe, mettre en question cette origine mythifiée, ce serait déchirer la tunique du Christ, ce serait, on trouve souvent la comparaison, démembrer la Sainte Trinité.
La Sainte Rousse, Ukraine, Russie, Biélorussie, c'est le cœur du monde russe.
Oui, Poutine aime penser en monde, le russe, le chinois, le musulman, l'américain, dont les Européens, s'ils ont encore un avenir, constituent au mieux une annexe. Depuis 30 ans, la République d'Ukraine, prétendument indépendante et réellement infernale, chercherait à extraire le pays de son monde naturel pour lui faire rejoindre les Occidentaux dans la mollesse et la corruption.
Cette bataille religieuse se déroule d'abord dans les frontières de l'Ukraine.
Jusqu'à il y a 30 ans, l'Église orthodoxe d'Ukraine vivait sous la juridiction du patriarcat de Moscou. Le combat pour une structure ukrainienne propre, une autocéphalie, a commencé dès l'indépendance. L'autocéphalie a été reconnue en 2018, non pas par le patriarcat de Moscou, évidemment, mais par le patriarcat de Constantinople. Et depuis, c'est dans quantité de localités un combat terrible pour savoir à quelle église adhérera chaque paroisse. Des votes sont organisés, mais c'est aussi une affaire de rapport de force. Combien de sponsors, combien de gros bras d'un côté et de l'autre. Si en plus, on n'oublie pas que l'église grecque catholique est très importante à l'ouest du pays, il faut bien constater une chose, l'Ukraine est de plus en plus différente de la Russie monolithique de Poutine en ce qu'elle devient multireligieuse, pas encore œcuménique toutefois.
Et la bataille dans l'orthodoxie concerne bien d'autres pays jusqu'à la France ?
L'émigration après la guerre civile a fait germer ici ce qu'on pourrait appeler l'école de Paris de l'orthodoxie avec de hautes personnalités. Nicolas Berdiaf, dans les années 20, Olivier Clément, plus récemment, cette école enseignait que l'homme étant créé à l'image de Dieu, sa liberté pouvait être infinie. Le patriarcat de Moscou n'a guère aimé cette école de Paris. Pour lui, la liberté, c'est seulement une grâce que Dieu donne à l'homme afin qu'il la mette aussitôt au service de l'Église. Le patriarcat de Moscou n'aimait pas non plus les paroisses orthodoxes françaises qui avaient choisi d'autres allégeances pour ne pas se retrouver sous la tutelle du Kremlin. Or, aujourd'hui, l'orthodoxie, selon Poutine, gagne du terrain de Nice à Biarritz et jusqu'à Paris, qu'on pense à l'immense centre russe construit à l'initiative de François Fillon, avec ses bulbes dorés au bord de la Seine. La bataille pour la Sainte-Rousse que Poutine livre en Ukraine ne concerne pas que l'Ukraine.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, et demain De Gaulle et la Russie. On continue la série sur cette crise entre Russie et Ukraine. Dans un instant, la Terre au carré. D'abord, un peu de réclame.
Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner contre le Covid-19 pour se protéger et protéger les autres. Les enfants peuvent se faire vacciner en centre de vaccination ou chez un médecin, un pédiatre, un pharmacien, un infirmier ou une sage-femme. N'attendez pas pour vous renseigner. Vous pouvez prendre rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
France Inter aime
Les Points Desserrés, un film de la cinéaste russe Kira Kovalenko.
Ad
Dans une ville d'Ossétie du Nord, Ada, une jeune femme en quête d'émancipation et de liberté, tente d'échapper à une famille qu'elle rejette autant qu'elle l'aime. Pris un certain regard au Festival de Cannes, Les Points Desserrés, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Il est 14h.